Conférence du 23 décembre 1993 à Rimont, philosophie artistique, cinquième conférence par le Père Marie-Dominique Philippe.
J'avais bien dormi et non pas travaillé. Être tout à fait dans cette analyse de ce que représente l'humain. Je l'ai fait tout de suite parce que c'est un. On n'oublie pas toujours, loin de là. Et il est quelque chose au contraire qui fait que ça vous abîme même. Le travail des esclaves, ça vous abîme, ça vous abrutit. Alors que le travail devrait en oublier. Parce que le travail est une activité typiquement humaine. Et j'allais dire, tout l'homme est pris par le travail. Parce que nous allons essayer de comprendre son intelligence, son corps. Le corps est engagé dans le travail. Donc sa sensibilité, son imagination, sa force. Et si on avait un regard de théologien, on dirait que les anges ne travaillent pas. Ce sont des bourgeois, comme diraient les Suisses, dans la famille divine. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont jamais les mains sales. Parce qu'ils n'en ont pas. Alors c'est facile. Et ils ne travaillent pas parce que ce sont des êtres spirituels. Et quelquefois, on a la tentation d'être comme ça. Ça arrive, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Alors que le travail, le vrai travail, n'importe quel travail, doit en oublier. Mais, quelquefois, l'aspect labeur pénible, tu travailleras la sueur de ton front. Alors, c'est quelquefois tellement fort, je dirais, le conditionnement du travail est quelquefois tellement pesant qu'on ne voit plus que ça. Et la valeur propre du travail est comme complètement cachée, ensevelie. Même pour un travail intellectuel, on s'en sort, vous savez. Quand on doit faire, par exemple, un petit travail, on a une petite étincelle, on dit, oh, c'est ça que je vais faire, c'est très intéressant, je vais creuser ça. Et puis, les méthodes de travail universitaires sont quelquefois tellement absurdes. On dit, regardez tout ce qui a été écrit là-dessus. Alors, on va à la bibliothèque, on cherche. 30 bouquins, 40 bouquins. On commence à lire, au bout de 3-4, la petite intuition du début a complètement disparu. Et on est devant un brouillard très épais. On ne voit plus rien du tout. Mais le travail laborieux qui fait qu'on a perdu cette petite étincelle. Alors ça, il faut bien le comprendre. Hein. Le philosophe essaie de comprendre en premier lieu qu'est-ce que c'est que le travail. C'est ce que nous essayons de faire. Et ça, seul le philosophe peut le faire. C'est le prof du philosophe. Le psychologue étudiera beaucoup plus le conditionnement. Beaucoup plus. Il s'arrête là. La question du labeur. Le sociologue regardera le milieu. Alors, tout ça intéresse le philosophe. Hein. J'ai absolument pas le droit de dire « Ah, moi je regarde que le travail là. » Donc, on doit regarder ce qu'est le travail et les diverses modalités du travail. Et comme c'est complexe, c'est l'opération humaine la plus complexe qui soit. Puisque le corps et l'âme sont engagés dans le travail. C'est très très complexe. Tout vous-même. Il suffit d'être fatigué pour s'apercevoir que le travail n'a plus la même qualité. Fatigué de la tête. Fatigué du corps. Oh, c'est pénible. C'est dur. Puis on peut travailler toute la journée, quelquefois sans rien avoir d'un petit peu d'intelligence. Alors, comme le travail est très complexe, le philosophe, sachant que c'est difficile, va regarder, pour savoir ce qu'est le travail, là où le travail est le plus net. C'est-à-dire le travail de l'artisan. Là, c'est très net. Parce que quand vous regardez le travail du surveillant d'études, il est payé pour être surveillant d'études. Quel boulot du travailleur du surveillant d'études? Le pion. Quel est son travail? C'est d'être attentif, de regarder. Et il aura l'impression de bien travailler ici. Il voit quelqu'un qui a l'air de ne pas travailler du tout et de s'amuser. Mais il sera comme un chien de chasse près du gibier. Et le gibier, c'est d'attraper celui qui ne travaille pas, celui qui s'amuse. Donc il sera attentif. Mais c'est un travail très particulier. Quel est le travail de celui qui est conducteur d'un train du TGV. Quand le TGV a commencé, j'ai pu avoir la permission d'aller pendant une demi-heure auprès de celui qui ça m'intéressait de voir un peu. Comme avant, quand on avait eu les trains Trans-Europe. C'est intéressant de voir ça et de voir ça de près. Exactement comme pour celui qui conduit un avion. Celui qui conduit une auto de course. C'est intéressant. Évidemment, la mort est proche, alors il faut faire attention. On est d'autant plus attentif. Mais celui qui conduit le PGV comme travail, qu'est-ce que c'est? Le tableau. Exactement l'aviateur. Comme tu restes dans une usine. Bon, surveille un tableau. S'il n'y a rien, tout est inscrit. On regarde la pupille de l'œil de l'usine. Tout est inscrit. Et on voit des taches. On voit des poils lumineux tout d'un coup. Et on sait que s'il y a un œil qui s'allume, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on cherche juste à voir. Oui, le travail devient un travail de surveillant. Mais c'est un travail, évidemment. Mais je ne vais pas chercher à voir ce qu'est le travail en prenant le surveillant. Parce que c'est déjà un travail très, très qualifié, très particulier, dans lequel le corps n'a plus grand-chose à faire. C'est avant tout le point de vue de l'intelligence qui surveille. Mais on tend de plus en plus à faire ça grâce aux robots, à faire que l'homme devient surveillant. Il a commencé par la cueillette des fruits et il termine par être surveillant. Surveillant du monde entier. On m'a dit, je n'ai pas vérifié, mais c'était un Vietnamien que j'avais connu à Fribourg, qui avait fait 2 ans dans les universités de Moscou. C'était une chose très intéressante, puisque au moment de 68, où il y a eu des vagues dans l'université et des scouts à Fribourg, ces Vietnamiens qui avaient été à Moscou ont pris la parole, ont dit, les réformes que vous demandez, c'est pour qu'on soit comme à Moscou. J'en étais 2 ans, je suis parti, je ne veux pas retrouver Moscou ici. Alors, ils m'ont raconté que le recteur avait son grand tableau. Il appuyait, il voyait ce qui se passait dans cette salle-ci. Dans toutes les salles, il pouvait voir, surveiller. Et le grand surveillant. Et Dieu devient le grand surveillant. Celui qui regarde, qui voit tout. On traite ça. Alors, je ne vais pas regarder ça pour comprendre ce que c'est que le travail. Je prends l'artisan. On a tous vu des artisans. Il y en a tout le temps. Puis vous pouvez voir le cuisinier si vous aimez mieux. C'est un artisan le cuisinier. Alors évidemment, quand il fait des gâteaux, c'est un artisan à dentelle. Ça c'est différent. Mais autrement, c'est un artisan quand il cuit un œuf ou un beefsteak. C'est un artisan. Et on voit tout de suite celui qui sait cuire et celui qui ne sait pas. Parce qu'il met au bon moment les ingrédients qu'il faut. Et les autres, il les ajoute après. Puis on ne sait pas très bien ce que ça fait. C'est la soupe du samedi, vous savez, vous tout y est. On retrouve le lundi, le mardi, le mercredi, c'est tout y est. Alors, dans l'artisan, regardez tout ce qui est impliqué dans le travail. D'abord, une attitude descriptive. Il faut toujours voir une attitude descriptive. Qu'est-ce que je vois quand un artisan travaille? Bon, prenez un menuisier si vous voulez, c'est notre breton qui fait des sabots. Bon, il travaille. Ce que je vois, c'est qu'il a des outils. C'est très rare quelqu'un qui travaille sans outils. Aujourd'hui, à l'état pur, il prend de la terre, de la glaise, et puis non, ordinairement, mais il a un outil. Bon, le travail implique les outils. Et le travail se fait à travers l'outil, sur une matière, on l'a dit hier. Et le travail est ordonné à une œuvre. En gros, une œuvre. Des œuvres très multiples. La matière est transformée. Donc, le travail transforme. paysan qui travaille, il a choisi sa matière, donc il y a un choix. Ça fait partie de son travail. Avant de travailler, il choisit la matière, il choisit les outils. Puis, à partir des outils et avec la matière, la transformation, on peut dire que c'est le travail. Le travail se situe là, mais le travail implique tout le reste. Et puis l'œuvre. Et quand il a terminé l'œuvre, il s'arrête. Et avant de terminer l'œuvre, il y a un regard, il discerne, il juge. J'ai toujours vu ça chez un artisan. Il s'arrête, il regarde, il prend du recul. Évidemment, le travailleur qui est en série ne fait pas beaucoup ça. Parce que le travail est mutilé. On ne prend qu'un aspect du travail. Il fait un geste du travailleur. Tandis que le travail complet, c'est quand on regarde, on est attentif à ce qu'on fait. Et plus le travail vous prend, plus vous êtes attentif. Puis le choix, mais d'où vient ce choix ? C'est quand même important ce choix qu'il fait. D'où ça vient ? Ah, il a un projet. Il a une idée dans la tête. Je veux faire un sabot style breton du XVIIe siècle. Donc très élégant. Et le sabot du dimanche. Pas n'importe lequel. J'ai une idée. Le projet, une idée. Et à partir de cette idée, on choisit. On choisit la matière, on choisit l'outil et on s'y met. Et on juge. Et le jugement se fait à partir de cette idée. En gros, ça, tout le monde peut faire ça. Et tout le monde comprend qu'il y a ça. Alors voyez, si je veux savoir qu'est-ce que c'est que le travail, je remonte à la cause propre du travail. Quelle est la cause propre du travail ? Le philosophe cherche à partir, après avoir décrit rapidement, hein, parce que je pourrais décrire tous les métiers, hein, je verrais que c'est toujours à peu près la même chose. Le travail implique tout ça. Évidemment, évidemment, alors là je mets tout de suite ça en très grande lumière, plus j'avance, plus l'humanité avance, plus l'outil devient important. Parce que quelquefois, l'œuvre, c'est un outil. On fait des outils, on fait des machines, on fait des automobiles, c'est un outil l'automobile. Et la vie, c'est un outil. Un outil très particulier, mais c'est un outil. Et on se met dedans. Et on dirige l'outil. Alors l'outil prend une importance énorme. C'est du reste là, où, au plan philosophique, c'est ça qui est intéressant à se poser la question. Est-ce que l'outil ne va pas supprimer le travail ? Est-ce que l'homme, je ne peux pas transformer l'homme en outil ? On en est là aujourd'hui, hein. Alors à ce moment-là, j'aurais plus que des outils, j'aurais plus que quelqu'un qui manœuvre ses outils de chez lui en appuyant sur un bouton, ça y est. Tout va se mettre à bouger. Il y aura des surveillants outils. Je leur donnerai une physionomie, ils regarderont et puis, ça percutera. L'outil est un médiateur. L'outil, c'est un médiateur. Et regardez le point de départ de l'outil. On y reviendra, mais je touche tout de suite là, parce que c'est un des aspects les plus intéressants aujourd'hui. Hein. C'est pas, qu'est-ce que c'est que l'outil ? C'est un médiateur. Au point de départ, les outils, c'est ce que notre main ne pouvait pas faire. Essayez de cuire un œuf avec votre main. Hein ? Une omelette.
aujourd'hui. Alors on a mis une médiation. On a prolongé la main. C'est pour ça qu'Aristote dit que l'outil, ça prolonge la main. Ça prolonge le pied. Et maintenant, on a des outils qui prolongent la tête. L'ordinateur, ça prolonge la tête, ça prolonge les calculs. Mais c'est toujours un prolongement. C'est toujours une médiation. Une médiation pourquoi ? Ah, pour l'accélération du travail. C'est curieux. Le travail, on demande que ce soit vite fait. Ah, vous lambinez, vous lambinez. On demande que ce soit vite fait, le travail. Et on demande que ce soit exact, avec beaucoup de précision. Parce que ce sont les qualités du devenir. Le devenir, c'est le mouvement. Et la qualité du mouvement, c'est l'accélération. C'est la rapidité. C'est pour ça qu'on aime d'aller toujours plus vite. Pourquoi on aime d'aller toujours plus vite ? Parce que le travail implique le mouvement. Et le mouvement demande la rapidité. On a l'impression, vous voyez, grâce à la rapidité, de pouvoir être un peu omniprésent. Avant, il fallait combien de temps pour aller en Amérique ? Maintenant, combien de temps il faut ? Le Concorde. C'est très curieux, l'accélération. Et comme cette accélération se fait dans le travail grâce à l'outil, ça a une répercussion sur tout. Nous sommes actuellement manœuvrés par l'outil. Et quelquefois, on devient esclave de l'outil. On ne le domine plus. On est l'esclave. On est relatif à l'outil. Alors que l'outil, au point de départ, c'est le prolongement de ma main. Alors comme ça s'est transformé progressivement de façon très étonnante. Et on devient relatif à l'outil. Et l'homme ne s'inquiète pas. Un nouvel esclavage. Le nouvel esclavage, c'est que l'homme est relatif à l'outil. On ne s'aperçoit pas que notre pauvre cœur humain ne peut pas se mettre au rythme de l'outil. Et alors il se fatigue. Et arrivé à un certain âge, ah oui, un vrai cul. Pourquoi ? Ah oui, l'homme s'est mis esclave de l'outil. L'outil, à la place de prolonger l'homme et de lui permettre, est devenu celui qui tue l'homme. Il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui, hein. Et c'est l'outil. L'homme n'a pas changé. Oui, il a changé un tout petit peu. L'électricité, hein, mais c'est encore un outil dont on se sert. Quand il ne fait plus assez clair le soir, on allume, appuyer sur un bouton, vite fait. Pas beaucoup de travail, les autres ont travaillé, mais non, on use un bouton. Ça permet de travailler toute la nuit. Mais si je fais ça longtemps, je détraque tout. Normalement, la nuit est faite pour qu'on se repose. Maintenant, on travaille la nuit, on se repose pendant la journée. Tiens, tiens. Et on croit que, oui, l'homme est l'animal le plus adaptable, surtout à l'égard des outils qu'il a fait. Il est le maître des outils. Le lion est le roi des animaux. Et l'homme est devenu le roi des outils. C'est une espèce de royauté assez particulière, le roi des outils. Le pape soulignait dans sa première encyclique que l'homme avait fait des outils extraordinaires, extrêmement dangereux, qui pouvaient détruire toute l'humanité. Et comme ces outils provenaient de lui, il les aimait. Il n'aura jamais le courage de les détruire. Alors qu'il avait détruit les animaux dangereux. Il est le roi des outils et il est relatif aux outils. Et quand ces outils deviennent dangereux, il ne peut pas les détruire, ça vient de lui. Ce sont ses enfants. L'homme arrive aujourd'hui à faire des avortements quand il s'agit de la vie humaine. Et il ne fera pas d'avortement. Des outils de défense pour la guerre, des outils dangereux qui peuvent faire sauter l'univers. On arrive à des contradictions, mais profondes. Et on vit là-dedans. Et on s'acclimate à ça. Vous voyez, il y a la philosophie de l'outil qui est capitale.
Prend tout, la finalité disparaît.
XXe siècle. Ce XXe siècle est un siècle extraordinairement curieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Le travail, c'est ce qui me donne l'expérience de l'efficacité. Un travail demande d'être efficace, puisqu'il demande de réaliser l'œuvre. L'outil permet au travail d'avoir une accélération et une efficacité prodigieusement plus forte. L'ordinateur, vous avez la pensée, et toutes les machines, le bulldozer, à la différence de la bêche. C'était la réflexion, ça date déjà d'un certain temps, d'un jeune Suisse que je connaissais bien, qui faisait son droit et qui avait été parti en Amérique. Ce qu'il voulait, ses pères étaient dans la banque suisse. Et là, il s'orientait vers la banque. Il a fait des stages là-bas. Et puis, il s'intéressait à faire les calculs par lui-même. S'en servir de la machine. Il aurait fait une erreur. Alors il a reçu une engueulade. Quoi, vous avez une machine qui fait ça bien mieux que vous, et vous n'en servez pas? Mais moi, ça m'intéresse de faire le calcul par moi-même. Mais non, c'est fini. Vous voyez, la machine passe devant. Si la machine fait des erreurs, tant pis, c'est la machine. Mais si vous faites des erreurs, c'est très grave. C'est très curieux, ça, hein. Et c'est vrai, et cette remarque l'avait beaucoup frappé, du reste. En disant, mais est-ce que c'est vrai, que, où est-ce qu'on va, quoi? Qu'est-ce que c'est que cet univers où la machine passe avant l'homme? On excuse tout de la machine, on n'excuse rien de l'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, le travail demande efficacité, avec des outils prodigieusement sophistiqués. Des outils prodigieusement complexes, l'efficacité devient de plus en plus forte. Et l'efficacité est en train de l'emporter sur la finalité. On est en situation limite, en face de l'efficacité par rapport à la finalité. Et ça, grâce à l'outil. Si l'outil que l'homme a fait, et c'est très beau, c'est l'invention de l'outil, l'invention de la brouette. C'est quelque chose, pas l'invention de la brouette. L'invention de la roue, c'est extraordinaire. Ça a commencé par le levier et la roue. Et grâce à ça, on a fait des choses étonnantes. On a pu faire des cathédrales. Mais maintenant, c'est pas des leviers et des roues. C'est quelque chose de ouf. Ça va beaucoup plus vite. Oui, il y a quelque chose d'infini dans l'efficacité et dans l'efficacité de l'outil qui fait qu'au bout d'un certain temps, on cherche à aller toujours plus vite. Même si ça tue des hommes, peu importe. Même si l'homme ne peut pas s'adapter, peu importe. On veut être premier avec, forcément, le point de vue de la rivalité constante. Au point de vue économique, où il faut maintenir la priorité. Il faut devenir les maîtres du monde. L'Amérique, les États-Unis, devenir les maîtres du monde. Ils l'ont déclaré après la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe était pour maintenir ça. Les maîtres du monde du côté de l'efficacité. Et on détruira impitoyablement tous les autres pour rester le maître du monde du côté de l'efficacité, du côté des outils, le roi des outils, je vous dis. Alors vous voyez, c'est intéressant au point de vue philosophique de dénoncer ce point de vue de l'outil qui devient tellement important, qui met l'homme en situation limite. Il met l'homme en situation limite, mais constamment. La vitesse. ou son efficacité. Où l'homme est dépassé par l'outil. C'est pas le travail, c'est l'outil. Alors, l'outil n'a de sens que par rapport au travail. L'outil provient du travail et l'outil est pour le travail. C'est pour ça que je dis l'outil d'un médiateur. L'outil n'a pas de sens en lui-même. Il se réfère à l'homme travailleur et il est pour l'usage de l'homme travailleur. Et voilà que la médiation de l'outil met l'homme en situation limite. Et l'homme le sait. Il le sait très bien dès qu'il réfléchit un peu. Il ne peut pas détruire l'outil. Attends, mais quoi, c'est stupide. Non, il ne peut pas. Parce que ça vient de lui. Comme ça provient de lui, non, pas. Il est séduit. Une séduction terrible. Qui fait qu'il va aller toujours plus loin. Si l'homme était un sage, il dirait attention, je perds ma finalité. Il n'y a plus d'amitié dans le monde, il n'y a plus d'amour dans le monde, il n'y a plus de contemplation dans le monde, il n'y a plus d'adoration dans le monde. On perd le sens de l'homme pour l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est pour qui? C'est pour l'homme. Mais si l'efficacité devient telle qu'on détruit l'homme, on est devant quelque chose de monstrueux. Vous voyez, la philosophie du travail, comme c'est important, ça vous détecte. Et ça doit vous détecter ce qu'il y a de monstrueux dans le monde d'aujourd'hui. On a tout inversé. Ce qui est médiateur devient fin. Alors que c'est la finalité, c'est l'homme. Et c'est pour l'homme, on travaille pour l'homme. Eh bien, votre travail est tel que maintenant, c'est l'homme qui est esclave de ça. Je grossis hein, exprès, en gros trait, pour montrer la place de l'outil. Mais c'est extrêmement intéressant à regarder comment l'outil nous met en situation limite. Bon. Je ferme la parenthèse et maintenant nous allons étudier les différents moments du travail. Mais je voulais que vous ayez ça tout de suite parce que ça c'est au plan philosophique. On vous dira tout de suite ça, mais le travail a changé. Attention, attention. La manière de travailler a changé. Le travail s'est transformé par l'outil, mais l'homme travaille toujours. Et c'est toujours l'homme, et l'homme n'est pas changé. Oui, c'est adapté. C'est adapté, c'est évident. La différence de l'homme du Moyen-Âge. Vous voyez, un saint Thomas dégringolerait actuellement. Ou un tailleur de pierre, de Chartres dégringolerait actuellement. Il dirait, mais ces hommes sont fous. Ils sont fous. Ils réfléchissent plus. C'est ça, c'est saint Thomas qui dirait ça. Ils réfléchissent plus. Ils réfléchissent plus. C'est leur seul intérêt, c'est d'aller très vite, très vite, très vite. Et le tailleur de pierre dirait, mais comment peut-on faire quelque chose de sérieux quand ce n'est plus l'homme qui travaille, c'est la machine qui travaille. On taille les pierres maintenant. C'est vrai, quand on s'y met, quand il y avait le labeur, on aimait la taille de pierre, là. C'est anonyme. La machine rend les choses anonymes. C'est l'outil. Ce n'est plus l'homme qui travaille. L'anonymat qui va avec l'efficacité. L'efficacité peut être anonyme, parce que c'est la série. Vous voyez, c'est toute la différence entre l'efficacité et la fécondité. Et ça, c'est capital de faire la distinction. La fécondité provient de l'amour, et l'efficacité, c'est la cause efficiente. Il y a peut-être un petit peu d'amour au début, très peu. Et souvent, il faut que l'affectivité se taise pour l'efficacité. C'est très, très curieux, ces choses-là. Et c'est très intéressant d'y remettre l'affectivité, ça vous met dans la bouche, ça vous met dans des ornières, et puis vous n'arrivez plus à en sortir. Donc l'affectivité, mais attention, hein, vous tuez l'homme au nom de l'efficacité. en supprimant l'efficacité, en supprimant l'affectivité. C'est la même chose. Hein. Alors là aussi, c'est très intéressant aussi, comme distinction. Vous vous servez de l'outil, et vous coopérez avec l'outil, et vous coopérez avec la matière. Quand l'outil devient très efficace, est-ce que vous coopérez encore? Ou est-ce que vous exploitez? Encore petite distinction intéressante à faire dans la philosophie du travail. Jusqu'où le travail reste un travail humain quand on coopère avec la matière. Mais si votre outil est tellement puissant, tellement efficace, qu'au fond vous ne coopérez plus, vous exploitez. Je me souviens, c'est un vieux souvenir, 1950, hein, c'est vieux, mais ça se me reste comme si je le voyais aujourd'hui. J'avais été au Canada et je revenais de ce temps-là par l'avion, hein, c'était le Transat. C'était beaucoup mieux. On avait 5 jours sur la mer, sur l'Atlantique, alors on pouvait en jouir au moins. Et puis surtout, on avait une paroisse mobile. Que la compagnie transatlantique était particulièrement attentive qu'il y ait toujours un prêtre. J'étais le seul prêtre. Alors on m'avait dit, vous êtes le curé de la traversée. Il m'avait, avec beaucoup de respect du reste, il m'avait dit, alors vous irez manger, prendre votre repas, parce que c'est capital, prendre votre repas dans toutes les différentes classes, pour qu'on sache que vous êtes là. Curé de la transat, ça ne dure pas, c'est davantage, mais c'est intéressant quand même. Et alors il y avait un garçon de 22 ans qui était là. Il était en clergyman. Il avait repéré. Il est venu me parler. Il m'a dit, j'ai quitté la France à 18 ans pour partir pour les États-Unis. Et je reviens marxiste. Je dis, tiens, oui, je reviens marxiste. Puis alors qu'on a commencé à discuter longuement. Quand on est arrivé sur le sol de France, arrivé par le Havre, puis il y avait le train, je le voyais regarder tous les petits villages. Ils avaient quitté depuis 4 ans, 18 ans, 22 ans. Alors il m'a regardé. En France, en 1950, on cultive encore. J'ai l'impression qu'en Amérique, on exploite toujours. Alors, commencer à discuter la différence entre cultiver et exploiter. Quand on cultive, on fait attention à la terre qu'on cultive. Et on veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants une terre meilleure que celle qu'on a prise. Et quand on exploite, on va jusqu'au bout de l'exploitation, il n'y a plus rien. C'est la cause matérielle qui est volatilisée dans l'exploitation. Tandis que quand on cultive, on coopère avec la cause matérielle. C'est une petite distinction extrêmement intéressante. Est-ce que j'exploite ou est-ce que je cultive? Est-ce que je coopère avec la cause matérielle et la matière? Ou est-ce qu'au contraire j'exploite? Après moi le déluge. Vous voyez, tous ces problèmes-là vous font comprendre que la philosophie du travail touche aujourd'hui quelque chose de capital. Pas seulement à cause du marxisme, oui. Le marxisme a eu un tel impact parce qu'il n'y avait pas de philosophie du travail, parce qu'il n'y avait pas de théologie du travail. Il faut bien le reconnaître. Alors le marxisme marche là-dedans à fond. Marx, Nietzsche, ça a marché à fond là-dedans. On comprend très bien. Et alors, il ne s'agit pas. transformer le travail par l'outil. Alors, à partir de là, c'est facile de comprendre l'évolution. Vous voyez, il y a eu une évolution énorme dans le travail, par l'outil. Mais cette évolution met l'homme dans une situation limite. Est-ce qu'on coopère encore ou est-ce qu'on exploite? Vous voyez, l'Europe peut se faire. Comment on conçoit l'Europe? Est-ce qu'on conçoit l'Europe dans un travail qui est humain? Ou est-ce qu'on conçoit l'Europe dans un travail qui va exploiter? Et que l'homme sera lui-même la dernière victime. Or, on assiste à ça. Regardez les pauvres paysans français. Quand ils voient qu'on va, pratiquement, il n'y aura plus de place pour eux. La France va tenir un jardin. Elle va tenir un jardin. Parce que...
Conférence de philosophie activité artistique le 23 décembre 1993 à Rimont par le père Marie-Dominique Philippe, 6e conférence.
Terme, si ça vous dérange pas. Vous précisez le rôle de la volonté dans le travail. Est-ce juste de dire qu'elle ne détermine pas mon travail comme l'inspiration, mais joue le rôle de cause efficiente, mais aussi d'ennoblissement permettant une présence d'une coopération plus grande avec la matière et de perfectionnement en nous permettant d'aller jusqu'au bout de mon travail. D'attention, vous voyez. C'est très juste de dire, en morale, c'est là la grosse différence. En morale, tout est commandé par l'amour d'un bien, d'une personne. Et l'intention de vie qui provient de l'intelligence à l'intérieur de l'amour, l'amour détermine la morale. Alors que l'activité du facturé, l'activité du travail, n'est pas déterminée par la volonté. On peut avoir une excellente bonne volonté et faire des choses idiotes. Il y a des artistes qui sont très pieux, qui sont partis du tout. Ils ont une bonne volonté, désarmante, mais font des choses laides. Et c'est pas l'amour qui détermine l'art. C'est l'inspiration, c'est la beauté. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté? Et toute la morale est déterminée par le bien qui suscite l'amour. Tandis que l'œuvre d'art est suscitée, comme nous allons le voir, par l'idéal. Dans ce cas, on pourrait dire que la volonté est au service de l'inspiration dans le travail. Oui, je dirais c'est ça. La volonté est là pour m'appliquer, je m'applique. Il faut de la volonté pour s'appliquer. Alors vous voyez, les différents moments où la volonté apparaît, est-ce juste de dire qu'elle ne détermine pas? Oui, ça c'est juste. Elle ne détermine pas mon travail. C'est l'inspiration qui détermine. C'est comme ça que je pose l'inspiration. Mais joue le rôle de cause efficiente, efficace. Oui, l'application. Je veux faire ça. Il y a des artistes qui disent, moi je ne travaille que quand je suis en état de grâce. C'est que je suis bien luné, voulez-vous. Je me souviens, il y avait comme ça un professeur faisait ses cours que quand il était en état de grâce. Au point de vue artistique, j'aurais pu vous dire que non, dernier coup, non, je ne suis pas inspiré. Je ne le ferai pas. Donc, on veut le faire. Alors, il y a des cours où on est inspiré, des cours où on est moins inspiré. Ça ne dépend pas uniquement de l'auditoire. L'auditoire joue, oui, beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne pense. Il suffit d'avoir une tête sympathique en face de soi pour dire que je suis inspiré. C'est le grand truc pour enseigner. D'avoir dans son auditoire au moins 3 personnes sympathiques. 3. Les autres, pff, tant pis. Hein. L'artiste est comme ça, ça lui est égal. Vous voulez pas écouter, mais partez, je vous en supplie. Point de vue moral, je pourrais pas dire ça. Point artistique, point de vue. D'un coup, je peux dire. Vous m'ennuyez. Vous avez une tête qui ne me revient pas. C'est mieux que vous ne soyez pas là, voulez-vous. Je suis bien feliz que vous n'êtes pas là. J'avais dit ça une fois, mais là c'est très différent de ce point de vue moral. À Marthe Robin, qui dit faut à tout prix quelque chose. Celui-là soit là. Mais Marthe, ça m'ennuie beaucoup quand il est là, parce que je sens qu'il ne reçoit pas, quoi, qu'il juge. Non, pour juger, terriblement gênant. Alors Marthe, immédiatement, ah, alors je ne prierai plus pour qu'il soit. C'est peut-être un manque de magnanimité. Je dis ça pour les autres. Il suffit d'une personne pour stériliser un cours. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. On est sensible à son auditoire. On coopère. C'est pas passif un auditoire. Il suffit d'une personne. Quelqu'un d'assez massif, hein. Quelqu'un qui vraiment a son poids. Parce que c'est une œuvre de coopération. Là, il suffit qu'il y en ait un qui freine. Et à bloc. Marche arrière. À ce moment-là, ça bloque. Et ça, c'est la volonté. Alors, perfectionnement, donc c'est l'attention. Et ça permet la coopération, c'est sûr. Bien évident que la volonté, là, c'est pour ça que l'art est humain. Il est humain par l'inspiration, il est humain par la volonté surtout. Et alors, vous voyez, c'est très curieux. Je dis ça à titre de remarque. Descartes définit la volonté à pouvoir d'efficacité. Et l'amour, c'est la passion. Donc il définit la volonté comme on la définirait pour le travail. C'est toujours très intéressant de voir que les erreurs proviennent qu'on a confondu la durée et le faturé. L'agir moral et l'activité fabricatrice, l'activité d'efficacité du travail. Alors, première remarque, je disais tout à l'heure en terminant, devant cette diversité d'activités, c'était pas si ça fait rien, vous l'avez vous, devant ces différents moments du travail, je vois qu'il y a quelque chose de commun. Il y a une source. Il y a le travail qui implique l'application. Il y a le choix d'outils, le choix de la matière. Je travaille dans ce choix. Qu'est-ce qui commande ce choix? C'est l'idée. C'est l'idée, le projet que j'ai, qui vient de moi ou qui vient d'un autre. Je peux très bien être un travail qui uniquement exécute. J'exécute le projet de mon ami. Ce projet ne vient pas de moi. Mais pour bien l'exécuter, il faut l'assimiler. C'est pour ça que c'est un projet d'un ami. Je peux très bien l'exécuter. Chef de chantier, c'est pas vous nécessairement qui avez vu tout ce qu'il fallait faire. On vous a donné un petit plan de travail. Et vous exécutez. Quand vous faites une dissertation philosophique, c'est un travail. Il vous faut un petit plan. Alors on dit le plan vient en travaillant, ce qui est très juste. Il faut un tout petit plan au début. Il ne faut pas chercher un plan, du moins. Normalement, il ne faut pas chercher un plan trop précis au début. On a une orientation, puis on marche. Et en marchant, ça se précise. Et on revient dessus. Alors, il y a au point de départ de tout travail humain, ce qu'on appelle une inspiration. Vous voyez, quand on dit que l'expérience est le point de départ de la philosophie, pour certains philosophes, le point de départ de leur philosophie, c'est l'inspiration. Pour Platon, pour Parménide, ils confondent un peu philosophie et poésie. Platon confond les deux, c'est de la poésie constamment. Heidegger confond un peu les deux, c'est de la poésie constamment. C'est très agréable, c'est agréable quand le philosophe peut être poète. Ce qui peut être après un aide au coin du feu qui chante sa philosophie. Il a transformé la philosophie en un art. En un poème. Alors voyez, c'est intéressant de bien comprendre que lorsqu'il s'agit du travail, d'un travail qui est un travail artistique, le travail n'est parfaitement travail que lorsqu'il est un travail artistique, puisque l'œuvre n'est parfaitement œuvre que quand elle se tient par elle-même. L'œuvre artistique. L'œuvre du manœuvre n'est qu'une œuvre mineure. L'œuvre de l'industriel n'est qu'une œuvre mineure. Une industrie de petit poids, il ne faut pas une grosse inspiration. Mais il faut une bonne organisation. Tandis que l'artiste, l'organisation, plus s'en fiche. Et ces œuvres ne se vendent pas, sans aucune importance, pour un vrai artiste. Parce qu'il y aura toujours la possibilité de dire « Les hommes d'aujourd'hui sont des imbéciles, ils comprendront mon œuvre que dans 50 ans. » Et ça lui donne une certaine sécurité. Et ce qui est vrai, ça arrive très souvent. Ça. Alors, comprenons qu'au point de départ de activité artistique, de tout travail, il y a une idée. Le fruit d'une inspiration. Je suis donc en présence d'une subjectivité transcendantale. Kant. Ce que dit Kant est juste. Pour l'art, pour le travail. Et lui, il le dit pour toute l'activité humaine, toute l'activité de connaissance. C'est vrai, dans le travail, je suis mon maître. Et quelqu'un qui vient critiquer mon travail, si je travaille bien et que je sais que je travaille bien, qu'est-ce qu'on fait? Allez, faites de même, puis je donne des outils. Un bon parisien entre dans une forge, des vieilles forges, et d'un côté de son aide, son ami, puis critique. Oh, Regarde comme il travaille, cet imbécile. Qu'est-ce que fait le forgeron quand il entend ça? Messieurs, faites de même. Allez-y, faites-moi faire à cheval. Après, vous pourrez critiquer. Moi, j'ai toujours envie de faire ça lorsque je suis en face de critiques d'art. Faites de même, après on pourra critiquer. Oui, très très important de comprendre ça. Parce que celui qui travaille, il est maître de son travail. Il gère son travail. Ah oui, il le gère. Il le domine. Dominer sur l'univers, c'est quand même un ordre divin. Et c'est Jésus, et c'est Dieu qui dit ça, pour montrer que l'homme doit travailler. Par le travail, je domine. C'est pour ça que quelqu'un qui a compris ça, il aime bien travailler, parce qu'il aime bien dominer. Dans n'importe quel travail, devenez un expert, vous dominerez. Vous tiendrez qu'aux exemplaires. Et on viendra vous trouver. Comment avez-vous fait ça? Comment avez-vous réussi ça? Parce que dans le travail, on domine. On domine par quoi? Par l'inspiration. On domine dans la mesure où il y a inspiration. Et tout travail humain a commencé par une inspiration. Le premier qui a fait une roue, c'est un grand artiste, vous savez. Il a inventé la roue. Nous, on imite. Et on se réfère à la première idée. Une cheminée. Pas très grande une cheminée. Mais t'as un trou dans le toit. Alors que Wendeva, on est enfermé. Pour qu'il y ait un courant d'air. Et que ça puisse bien partir. Je me souviens, c'était Pierre de Fontaine qui était géographe humain. Alors lui était très attentif à ça. Très attentif à voir les inventions. Au point de vue artistique, au point de vue travail. Donc, au point de départ, il y a une inspiration. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Mais voyez bien, l'inspiration est extrêmement variée. Beaucoup d'inspirations sont au point de départ extrêmement vagues. Puis petit à petit, ça se détermine. Et l'inspiration conduit et dirige et détermine. Le travail est déterminé en vue de l'œuvre. Mais ce n'est pas l'œuvre qui commande le travail, parce que l'œuvre n'existe pas. Il faut bien qu'il y ait avant quelque chose qui fait que j'ai le prototype de l'œuvre. Et c'est ça l'idée. C'est le prototype de l'œuvre. C'est une hypothèse. Une hypothèse de travail. Est-ce que je peux réaliser ce triangle? Est-ce que je peux réaliser cette roue? Est-ce que je peux réaliser cette statue? J'apporte en moi. J'apporte en moi. Il faut la réaliser ensuite. Je sais que certains artistes disent qu'il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a que le métier et le travail. C'est possible qu'il y ait des artistes qui n'aient que le métier et le travail. Et qui ne savent pas discerner en eux la véritable inspiration. C'est des inspirations qui sont très nettes. On est commandé par ça. Et puis des inspirations qui sont très vagues. Très très curieux. C'est pour ça que c'est très difficile de parler d'inspiration. Mais il faut en parler. Et il n'y a pas de philosophie d'inspiration. Parce qu'il n'y a pas de philosophie d'inspiration, il
Il n'y a pas de vraie théologie de la révélation. C'est vrai que tout ce domaine du travail a été très délaissé par les théologiens du Moyen-Âge. Ils ont laissé ça aux moines. Saint Benoît, sans c'est un nom du travail. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas un moine. Les gens qui ne travaillent pas ne sont pas des moines. On les met à la porte. Ce sont des paresseux. Le moine doit travailler. Travail manuel, travail intellectuel, peu importe, le travail. C'est capital. Alors, on a laissé le travail aux moines. Quand les moines avaient un rôle important dans la culture humaine, ça allait. Quand les moines ont plus cette importance dans la culture humaine, alors la théologie s'est désintéressée du travail. Et elle ne s'est intéressée plus qu'à la liturgie. La liturgie est un travail. C'est sûr. Et alors on a oublié la base profonde de la liturgie. Et on a fait de la dentelle. Ça arrive, il y a des liturgies dentelles. Mais ce ne sont pas des liturgies. La liturgie, c'est l'activité humaine consacrée à Dieu. Liturgia. C'est l'activité humaine consacrée à Dieu. C'est notre corps qui se met à l'unisson de notre âme pour glorifier Dieu. C'est ça l'action liturgique. C'est un fait que tout le point de vue du fait chéré a été oublié par les théologiens et l'inspiration aussi. Alors il est resté un traité de l'inspiration, c'est sûr, de la révélation, de l'inspiration divine. Mais comme il n'y a pas de philosophie précise sur l'inspiration, ce traité de théologie sur l'inspiration reste très très peu développé. Et ceci fait comprendre alors comment l'exégèse n'a pas su trouver sa place. Vous savez, tout ça se tient. Alors, on va essayer nous, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'inspiration. J'ai fait toute une enquête, vous trouverez dans le livre, sur l'activité artistique. Mais c'est embryonnaire. Hein. Je ne considère pas du tout que c'est terminé. Je voudrais reprendre ce chapitre sur l'inspiration. Parce qu'il y a déjà un petit bout de temps que c'est lui. Mais c'est intéressant. Alors je vais vous lire quelques passages. Parce que si je vous renvoie tout simplement, je sais que je ne le ferai pas. Au chapitre 5 de l'activité artistique. Aristote dit ceci en poétique. L'art de la poésie appartient soit à des hommes bien doués, soit à des hommes inspirés. Il n'explique pas ce que c'est que l'inspiration. Il y a un petit dialogue en Platon, Lyon, qui parle de l'inspiration, et qui met des analogies entre l'inspiration et l'homme un peu ivre. Aujourd'hui, il prendrait la drogue. Et Platon fait un parallèle entre le poète inspiré, le mystique inspiré, le philosophe inspiré. Qu'est-ce que c'est qu'être inspiré? C'est voir un peu plus loin que les autres. Qu'est-ce que c'est que le prophète? C'est celui qui voit un peu plus loin que les autres. Les autres voient l'horizon. Lui voit au-delà de l'horizon. L'inspiré, c'est celui qui a la place uniquement de voir les choses, les apparences, découvre au-delà de l'apparence, la source. L'inspiration est toujours une source. Quelque chose qui jaillit. Et qui jaillit avec une sorte de liberté. Quelque chose de très particulier, l'inspiration. Alors, on en a très peu parlé dans les philosophies anciennes. Je vous dis, Platon et Aristote font allusion à l'inspiration. Platon plus. Je vous cite quelques textes, hein, simplement. Donc, ce qui est très difficile, beaucoup reconnaissent que l'inspiration existe. Rien n'est plus réel et plus nécessaire à la poésie et à toute grande œuvre, donc à tout travail, parce que le travail se définit par l'œuvre, que l'inspiration. Et rien n'est plus naturel et plus éternel, d'une certaine manière. C'est Maritain qui dit ça. Dans un livre intéressant, c'est l'intuition créatrice. Au point de vue des meilleures choses de Maritain. Des tas de choses très intéressantes. Il l'a écrit en anglais, puis ça a été traduit. C'est en anglais quand il est parti. C'est pas Ars Scholastique, c'est le livre qui est après. Parce que Maritain est très poète grâce à Raïssa. Où dire de Maritain? Raïssa qui était son inspiratrice. Donc l'inspiration c'est Raïssa. Pour Maritain. Pas pour moi. Ni pour vous. C'est amusant. C'est très curieux ça. Mais c'est intéressant de se rappeler ça. Et Maritain le disait ouvertement. Ce qui est beaucoup plus difficile à préciser, c'est ce qu'est l'inspiration. Le diesti, qu'est-ce que c'est que l'inspiration ? Et par le fait même, son rôle exact, étant donné les formes extrêmement variées, les déguisements subtils qu'elle peut prendre. Maritain dit ceci, toujours dans sa intuition créatrice. Elle peut survenir dans le bonheur et l'exaltation. Elle peut survenir dans la détresse et la misère. Elle peut ne s'imposer au poète que sous la forme d'affront de la conscience, qui l'oblige à lutter encore et encore contre les déficiences de l'expression. Quelquefois, l'inspiration demeure inaperçue quand elle est spécialement profonde et soutenue. Quelquefois, il faut la payer d'un labeur forcené et d'un ingrat travail de fouille dans un sol aride. L'inspiration de l'archéologue. Il y a des gens qui sont des archéologues. Même comme philosophe, Foucault, c'est une méthode archéologique. On cherche. On croit qu'il y a un trésor là. Puisque c'est très très varié, l'inspiration, on comprend que c'est très difficile à préciser. Et Maritain ne cherche pas, du reste, à préciser exactement. Je pense que la notion d'expérience poétique est plus fondamentale au point de vue philosophique que celle d'inspiration. Pas moi. L'expérience poétique provient de l'inspiration. Et l'inspiration est première. Et il décrochait ce que c'est que l'inspiration. Maritain cale et vient à l'expérience poétique. C'est pas la même chose, l'expérience poétique. Pour qu'il y ait expérience poétique, il faut y avoir inspiration. Ça me semble impossible autrement. C'est le germe. C'est la source. Alors, on va pas vous assommer avec ça. Quoique c'est très intéressant, moi, ça. J'aime énormément de voir toute la manière dont les philosophes et dont les poètes parlent de l'inspiration. Pour certains, l'inspiration est comme un délire. Ça, c'est très platonicien. L'ivresse. Oui. N'oubliez pas le texte des Actes des Apôtres. Je vais prendre compte. Ces hommes sont ivres. J'ai le bon sens de Pierre, mais non, 3h de l'après-midi, quoi. Pas déjà, c'était à 8h du soir dans les rues de Londres, très bien. Mais pas, à 3h de l'après-midi, quand même. C'est un délire. C'est vrai, vous voyez, ça vous fait voir ce que les autres ne voient pas. Alors, très facilement, quand vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas, c'est un peu fou. C'est un délire que Nietzsche conçoit, c'est comme ça qu'il conçoit l'inspiration, ne doutant pas qu'il faille remonter à des milliers d'années en arrière pour trouver quelqu'un qui ait le droit de dire que cette expérience, c'est la mienne, c'est mon inspiration. Mais une source très cachée. Et pour Nietzsche, voyez, une source de l'humanité qui tout d'un coup surgit, c'est une vie très humaine, pas du tout divine. On disait couramment, dans l'Ancien Testament, qu'il fallait beaucoup de petits prophètes pour un grand prophète. C'est exactement ce que dit Nietzsche. Il faut beaucoup de bons religieux pour un saint religieux. Parce que la vie religieuse, c'est une école de la sainteté. Faut pas simplement, c'est pas suffisant d'entrer en vie religieuse pour être un saint. Faut émerger. Il faut pas vouloir émerger pour le plaisir d'émerger. On n'y arriverait jamais. Mais c'est vrai. Il y a des écoles de sainteté. Et ceux qui sont dans l'école ne sont pas saints. Ils permettent la sainteté. Des cathédrales. Il y avait beaucoup d'artistes. Puis il y avait qui émergeait. Alors, je vous lis ce passage de Nietzsche. Vous l'avez pas lu, ça, pour Nietzsche. Je lis ce passage de Nietzsche. Comme ça ramène au point de départ. C'est un passage intéressant. C'est dans Ecce Homo. Quelqu'un a-t-il, en cette fin du 19e, la notion claire de ce que les poètes, aux grandes époques de l'humanité, appelaient l'inspiration. Si nul ne le sait, je vais vous l'expliquer ici. Il y a du culot, Nietzsche, vous savez. Parce qu'il est seul de la race des dieux. Pour peu que l'on ait gardé en soi la moindre parcelle de superstition, on ne saurait en vérité se défendre de l'idée qu'on n'est que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissance supérieure. Le mot « révélation », entendu dans ce sens, que tout à coup, quelque chose se révèle à notre vue ou à notre ouïe, avec une indicible précision, une ineffable délicatesse, quelque chose qui nous ébranle, nous bouleverse, jusqu'au plus intime de notre être, est la simple expression de l'exacte réalité. On entend, on ne cherche pas, on prend, on ne se demande pas qui donne. Tel un éclair, la pensée jaillit, soudain, avec une nécessité absolue, sans hésitation, ni recherche. Je n'ai jamais eu à faire un choix. Mais c'est une description, hein. Mais c'est très juste. Nietzsche est inspiré, son papa Nier. En Suisse, il y a un lieu où Nietzsche allait beaucoup à Sils Maria. Alors j'ai fait le pèlerinage, pas que du tout, je suis Nietzschien, pas du tout, mais ça m'intéressait de voir combien la nature inspire Nietzsche. De façon étonnante. là, il y avait la maison où Nietzsche venait après ses promenades à Six Maria. Et alors, il passait un peu comme un inspiré, dans le délire. Un homme un peu ivre. Et les gosses le voyaient tout de suite. Alors, paraît-il, c'est l'histoire qu'on raconta à Six Maria. Paraît-il que tous les gosses, ils passaient là. Six Maria est un lieu, le lac de Marie, quelque chose d'extraordinaire, très très beau lieu. C'est vraiment un très très beau lieu. Quand j'ai demandé à un Suisse, quand je suis arrivé, qui était très très fin, il y avait un sens étonnant d'esthétique, je lui ai dit, à quelle époque de l'année vaut-il mieux aller à Six Maria? Alors il m'a regardé, vous savez, c'est comme les grands vins de Bordeaux, de Bourgogne. Les uns aiment mieux l'hiver, d'autres le printemps, d'autres l'été. C'est un grand vin. Mais on voit ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui s'impose. Alors, quand Nietzsche passait, les gosses s'amusaient à mettre des petits cailloux dans ses poches. Sans que Nietzsche s'en aperçoive. Mais ils étaient honnêtes, ils ne cherchaient pas à voler son portefeuille. Aujourd'hui, ils auraient fait ça. Et ce temps-là, c'était mettre des petits cailloux dans ses poches. Alors après, il s'approchait de lui, tout doucement, mettait le petit caillou, puis à toute vitesse, il envoyait ça. Et quand Nietzsche rentrait à l'hôtel, le maître d'hôtel était là. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Et rien. Regardez. Alors il vidait ses poches. Il y avait pas de cailloux. Vous pouvez comprendre comment Nietzsche était inspiré. Tel un éclair, la pensée jaillit soudain avec une nécessité absolue, sans hésitation ni recherche. Je n'ai jamais eu à faire un choix. C'est un ravissement où notre âme, démesurément tendue, se soulage parfois par un torrent de larmes, où nos pas, sans que nous le voulions, tantôt se précipitent, tantôt se ralentissent. C'est une extase qui nous ravit entièrement à nous-mêmes, en nous laissant la perception distincte de mille frissons délicats qui nous font vibrer tout entier, jusqu'au bout de nos orteils, sauf quand ils sont dans le plâtre. C'est une plénitude de bonheur, où l'extrême souffrance et l'horreur ne sont plus éprouvées, comme un contraste, comme partie intégrante et indispensable, comme nuance nécessaire au sein de cet océan de lumière. C'est un instinct du rythme qui embrasse tout un monde de forme, la grandeur, le besoin d'un rythme ample et presque la mesure de la puissance de l'inspiration. Et comme une sorte de compensation à un excès d'oppression et de tension. Ces contrastes, hein, vous voyez, c'est tous les contrastes. Mais quelque chose qui émerge des contrastes. C'est pas le contraste. Non, non. Il n'y a pas d'inspiration dans la dialectique. Curieux. La dialectique est un cheminement. Tout cela se passe sans que notre liberté y ait aucune part. Et pourtant, nous sommes entraînés comme dans un tourbillon par un sentiment plein d'ivresse, de liberté, de souveraineté, de toute puissance, de divinité. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est ce caractère de nécessité par quoi s'impose l'image, la métaphore. On perd toute notion de ce qui est image, métaphore, il semble que ce soit toujours l'expression la plus naturelle plus juste, la plus simple qui s'offre à nous. On dirait vraiment que, selon la parole de Zarathoustra, les choses elles-mêmes viennent à nous, désireuses de devenir symboles. Et toutes les choses accourent avec des caresses empressées pour trouver place en ton discours. Et elles te sourient, flatteuses, car elles veulent voler portées par toi. Sur l'aile de chaque symbole, tu voles vers chaque vérité. Pour toi, s'ouvrent d'eux-mêmes tous les trésors du Verbe. Tout être veut devenir Verbe. Tout devenir veut apprendre de toi à parler. Telle est mon expérience de l'inspiration. Oui, c'est très fort, c'est très intéressant. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a chez Nietzsche une inspiration très forte. Alors, façon toute différente, absolument tout à fait différente, mais j'aime de les voir en parallèle. L'inspiration apparaît comme une attente. Alors c'est Valéry. Valéry, le matheux poète. D'un esprit mathématique, mais poète. Les grands matheux sont des hommes inspirés. T'en peux pas nier. Comme les poètes. Et Valéry a des tas de choses qui sont extrêmement intéressantes du point de vue de l'inspiration. Je connaissais à Fribourg un jeune littérateur qui était fou de Valéry. Qui connaissait tout Valéry. Alors j'aimais beaucoup de passer du temps avec lui. Donnez-moi tous les passages de Valéry sur l'inspiration. Il y en avait des quantités, puis il me les plaçait bien dans le cadre. Parce que je n'ai pas tout lu dans Valéry. Valéry a quelque chose d'assez curieux, vous allez voir. Donc, Valéry décrit ce moment particulier de l'inspiration. Esprit. Attente pure, éternel suspens, menace de tout ce que je désire, épée qui peut jaillir d'un nuage, combien je ressens l'imminence. Une idée inconnue est encore dans le pli et le souci de mon front. Je suis encore distinct de toute pensée, également éloigné de tous les mots, de toutes les formes qui sont en moi. Mon œil fixé reflète un objet sans vie. Mon oreille n'entend point ce qu'elle entend. Ô ma présence sans visage, quel regard que ton regard sans chose, sans personne, quelle puissance que cette puissance indéfinissable, comme la puissance qui est dans l'air avant l'orage. Je ne sais ce qui se passe. Je suis amour. Je suis soif et point de nom. Car il n'y a pas d'homme dans l'homme et point de moi dans le moi. Mais il y aura un acte sans être, un effet sans cause, un accident qui est ma substance, l'événement qui n'a de figure ni de durée, attaque toute ligne, toute figure de toute durée. Vous voyez, là encore, au-delà de tous les contrastes, quelque chose qu'on ne nomme pas, un frisson. Frisson électrique qui passe, fugitif, toujours la même idée, hein, dit autrement, mais c'est la même chose. Bon, alors, je ne continue pas, mais je vous indique, pour ceux qui aiment Valéry, que Valéry a l'immense avantage d'être un matheux, donc très précis. Alors, quand il veut exprimer quelque chose qui n'est pas précis, voyez ce qu'il fait, il coupe. Le disque continue. Il exprime l'inspiration par ça. Un frisson. Quelque chose qui passe. Au-delà des mots. Quelque chose qu'on nomme pas. Qu'on ne peut pas nommer. On voit la très grande différence. Ce serait intéressant de regarder toutes les métaphores qu'on emploie pour exprimer l'inspiration. Je crois que c'est une source à l'état pur. C'est ça l'inspiration. Quelque chose qui jaillit. C'est ça. Il y a quelque chose qui jaillit. Oui, une source très profonde, avec un jaillissement d'autant plus fort. C'est antérieur à toute réflexion. C'est antérieur à toute composition. C'est quelque chose qui donne l'âme, le souffle. Je crois que c'est encore le souffle, la source, le souffle, qui montre le mieux ce que c'est que l'inspiration. Donc au fond, on ne le définit pas, l'inspiration. Et quand on veut dire qu'est-ce que c'est que l'inspiration, et c'est assez beau de voir qu'au fond, c'est plutôt du côté de l'acte, un frémissement. C'est beaucoup plus du côté de l'acte que de la détermination. C'est au-delà de toutes les déterminations. Et ce n'est pas un mouvement. Oui, c'est un mouvement, mais un mouvement tellement subtil qu'il n'est pas déterminé. Décrire l'inspiration, on ne peut pas la définir. Mais on peut se demander d'où ça vient. Alors, oui, ça c'est le philosophe, quand on ne peut pas arriver à définir quelque chose, on cherche son origine. Vous voyez, Platon n'arrive pas à préciser ce que c'est que l'amour. Alors il cherche l'origine de l'amour. On ne peut pas arriver à définir ce que c'est que l'inspiration, d'où ça vient. Alors là encore, certains disent que l'inspiration, c'est un don de Dieu. Donc, l'origine de l'inspiration est divine. Les muses, Claudel, les muses sont la source d'inspiration. Quand vous dites les muses, vous donnez votre langue au chat. Vous ne savez pas du tout ce que c'est qu'une muse. Des muses. Vous avez rencontré? Non, vous les portez en vous, oui. Vous les portez en vous et vous les cachez bien soigneusement.